VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RDC, à l'issue de son séjour dans le pays, l'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Tom Perriello, a donné en fin de journée hier une conférence de presse à Kinshasa. Il y a fait le tour des grands dossiers régionaux et parlé de l'appui de Washington dans la quête de solutions. Les précisions d'Eddie Isango.
Tom Perriello, qui succède à ses postes, l'ancien sénateur Ross Feingold, en était à sa seconde tournée dans les Grands Lacs. Il a ainsi visité Kinshasa et Goma en RDC, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, avec d'autres escales prévues en Angola et à Genève en Suisse. Mais c'est Perriello dit avoir eu avec le président congolais Joseph Kabila des échanges constructifs sur la situation des réfugiés, les groupes armés, la tenue sans délai des élections en RDC, de même que la situation au Burundi.
United States' deep commitment to the Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes.
Et je souhaite réitérer l'engagement des États-Unis de pouvoir travailler avec la RDC afin de pouvoir nous attaquer aux causes principales de la crise, mais aussi bien sûr à d'autres questions. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre grandement de la part du président, de la part de la société civile et d'autres acteurs.
Concernant les Burundi, Tom Perriello a parlé de l'échec des efforts internationaux, notamment américains, visant à décourager un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
The United States is deeply concerned about the humanitarian and political crisis in Burundi.
On constate que cette position du président Nkurunziza a créé une grave crise politique et humanitaire, mais j'aimerais réitérer les mots du président Obama qui a dit que quand les leaders veulent s'accrocher au pouvoir, ça crée bien sûr des conséquences très sérieuses, négatives, y compris la déstabilisation du pays, et qui peut aussi avoir un impact négatif sur le développement de cette nation.
Pour ce qui est des rebelles rwandais des FDLR cantonnés en RDC et dont la situation ne connaît aucune évolution, Tom Perriello a promis la poursuite des efforts américains dans la quête d'une solution.
We will continue to use whatever diplomatic pressure we can bring to bear.
La question des FDLR est une question qui a créé beaucoup de problèmes dans la région pendant longtemps, et nous voudrons voir des résultats concrets, notamment relativement aux actions militaires qui sont entreprises contre ce groupe armé, mais aussi au rapatriement de ces rebelles dans le cadre du processus de Détroit. Nous pensons qu'il y a bien sûr la nécessité d'accompagner ce processus, et comme je l'ai dit, ça a duré trop longtemps cette région. Nous avons eu l'opportunité de voir comment les actions de Détroit s'effectuent au Rwanda. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine.
L'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Tom Perriello, lors de sa conférence d'hier à Kinshasa, un compte rendu réalisé avec les concours des Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza s'est adressé hier à la Nation. Une analyse de son discours avec Athanase Karayenga, spécialiste de la communication politique et de la gouvernance.
Le président Nkurunziza, il a une capacité absolument inouïe, inimaginable, d'amnésie, d'oubli. Il oublie toutes les promesses qu'il avait faites il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a une semaine. Des promesses de sécurité, de paix, de démocratie. Il oublie ses engagements, les serments qu'il a prêtés en 2005, en 2010. Il oublie que tout récemment, il y a eu des centaines de morts tués, assassinés par la police. Des milliers de personnes qui sont parties en exil. Tout ce bilan, il ne l'assume pas. Il ne veut pas rendre des comptes.
Athanase Karayenga, spécialiste de la communication politique et de la gouvernance. Conflit au Soudan du Sud, 9 jours après les rebelles, le président Salva Kiir a finalement signé hier à Djouba l'accord de paix devant mettre fin à la guerre civile, mais il a émis de sérieuses réserves. Claire Morin-Gibault.
Dénonçant des dispositions néfastes dans l'accord, le président Salva Kiir a remis un document de 12 pages à la médiation internationale listant ses réserves. Les autorités sud-soudanaises ont indiqué que la démilitarisation de Djouba ou la large place accordée aux rebelles dans le cadre du partage du pouvoir local dans l'État pétrolier du Haut-Nil leur posait problème. La Maison-Blanche a immédiatement appelé au respect intégral de cet accord, tandis que le Conseil de sécurité des Nations Unies donnait jusqu'à mardi 1er septembre au président soudanais pour lever ses réserves sous peine de sanctions.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti du président déchu Blaise Compaoré, ne décollèrent pas après la décision de la Cour constitutionnelle interdisant à ses membres d'être candidats aux législatives d'octobre. D'où son appel à la désobéissance civile. Bagassi Koura.
Le CDP demande à ses militants d'entreprendre toute action entrant dans le cadre de la désobéissance civile, a déclaré lors d'une conférence de presse le vice-président du CDP, Achi Tapsoba, la décision mardi du Conseil constitutionnel déclarant inéligible 42 partisans de Compaoré est anticonstitutionnelle, a affirmé M. Tapsoba, sans préciser le mode de manifestation prévu selon l'AFP. Si nos militants exclus des élections ne sont pas réintégrés, nous n'allons participer à aucune élection, a-t-il averti. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Cependant, les partis de l'ex-majorité ont toujours la possibilité de remplacer ces personnalités inéligibles par de nouveaux candidats.
Au Mali, les mouvements de la plateforme Coalition des groupes armés pro-Bamako se retirent de la localité d'Anéfis. Mais ils souhaitent que les forces internationales qui y seront déployées aient à leur côté des soldats maliens. Pour sa part, le chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, était en déplacement en Algérie pour parler du processus de paix. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
La plateforme a décidé de se retirer d'Anéfis. Toutefois, elle estime nécessaire, pour des raisons de sécurité des populations, de voir les femmes accompagner les forces internationales qui y seront déployées sans délai. En déplacement en Algérie, le chef de la MINUSMA a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de ces pays. Les discussions ont porté sur une nécessité de poursuivre les efforts afin de parvenir à la concrétisation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En tout cas, la question d'Anéfis a été examinée par le gouvernement lors de sa session du Conseil des ministres de ce mercredi. Shogel Kokala Maïga, ministre porte-parole du gouvernement malien.
Le président de la République a conseillé au gouvernement de garder la sérénité, d'être engagé et d'être déterminé.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Syrie, le groupe État islamique qui contrôle la ville antique de Palmyre depuis mai dernier continue sa campagne contre ce qu'il appelle les idoles. Ses militants ont fait exploser il y a quelques jours le temple de Baal Shamin, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Au micro de Claire Morin-Gibourg, la réaction de Thomas Pierret, chercheur spécialiste de la Syrie.
C'est un choc, non, c'est beaucoup de tristesse, comme toujours, quand on détruit le patrimoine extrêmement riche d'un pays comme la Syrie. Ceci dit, je pense que ça doit aussi laisser place à une analyse un peu froide de la situation, qui est qu'on est dans une stratégie qui est vraiment purement médiatique de la part de l'État islamique, qui est là simplement la continuation de ces mises en scène macabres, hein, d'exécutions diverses par le feu, par la noyade, etc. On est dans une surenchère où l'État islamique sent bien que ça fait un petit temps maintenant qu'ils ont pratiqué les vidéos d'exécution, que il y a une lassitude, donc il faut faire de la surenchère. Et ils savent évidemment qu'une chose qui provoque énormément d'émotions en Occident, bien sûr, c'est le patrimoine, ce qui est aussi un petit peu dérangeant. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que les destructions de patrimoine vont choquer plus que la tragédie humaine, que les pertes humaines qui se multiplient tous les jours en Syrie. Mais donc voilà, je pense que l'État islamique doit entretenir sa machine médiatique. Elle était un petit peu au ralenti et donc on la relance avec une destruction de patrimoine qui va avoir un écho important en Occident.
Comment vous expliquez ce besoin de stratégie médiatique, comme vous dites, de la part du groupe État islamique ?
C'est un groupe qui a une stratégie et des ambitions globales. Donc on le sait bien, évidemment, avec le recrutement de combattants étrangers, qui est une composante très importante des effectifs et du fonctionnement du mouvement. Également une stratégie d'expansion globale, et avec, on le sait bien, la création de branches dans le Sinaï, en Égypte, au Nigeria, avec Boko Haram. Une stratégie globale comme celle-là, elle implique, un petit peu comme les multinationales qui vendent des produits au niveau global, il faut une publicité qui soit à la hauteur de ses ambitions. Et c'est ce qui est un besoin que ne vont pas forcément ressentir, par exemple, des groupes rebelles syriens qui agissent au niveau local et qui vont chercher à recruter des combattants dans leur province, plutôt par le bouche à oreille que par une stratégie médiatique. Ici, on est dans une dimension qui est autre, qui est globale, et donc il faut une stratégie médiatique qui soit à la hauteur.
Thomas Pierret, maître de conférence en islam contemporain à l'Université d'Édimbourg et spécialiste de la Syrie. Et pour terminer, actualité aux États-Unis, nouvel appel de l'administration Obama en faveur du contrôle des armes à feu après le meurtre par balle en direct à la télé de deux journalistes d'une chaîne de télévision en Virginie hier. Les victimes ont été abattues par un ancien employé de la station qui s'est tiré une balle dans la tête quand la police l'a stoppé près de Washington. Le meurtrier est mort à l'hôpital quelques heures après.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.